Religion du monde. Geneviève Delru.
La paix ne requiert pas de vainqueurs et de vaincus, mais des frères et des sœurs qui, malgré les incompréhensions et les blessures du passé, empruntent un chemin du conflit vers l'unité. Nous nous unissons dans la prière pour tout le Moyen-Orient. Et je pense notamment au pays martyrisé, la Syrie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Religion du monde entièrement consacrée à la visite historique du pape François en Irak. À la mi-temps de ce voyage, marqué par des phrases fortes à son arrivée, par sa rencontre samedi à Najaf avec le grand ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité chiite irakienne, et puis à Our, terre des origines des trois monothéismes, ce grand rassemblement interreligieux où il a lancé cet appel à la paix que nous venons d'entendre. Nous allons décrypter ce voyage du pape François avec plusieurs témoignages et avec notre invité en studio, Christian Lochon. Bonjour Christian Lochon.
Bonjour Geneviève.
Je rappelle que vous êtes ramizan, que vous avez travaillé de longues années au Proche-Orient, dont 5 années en Irak. Vous avez publié en 2016 un livre sur les chrétiens d'Orient aux éditions Jean Maisonneuve. Mais avant de mesurer avec vous l'impact de ce voyage, je vous propose de rejoindre à Bagdad Arthur Herlin de l'agence de presse Vatican Immédia qui couvre pour RFI ce voyage. Arthur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans l'avion du pape donc depuis le début. Qu'est-ce qu'il ressort déjà de ce mi-temps de ce voyage ?
Déjà, ce qui ressort, c'est la ferveur qui est quasi palpable depuis que le pape est arrivé. Les rencontres avec le président, le premier ministre se sont extrêmement bien passées. Le premier ministre était vraiment tout sourire et on apprend que le premier ministre a décrété une journée de coexistence chaque année, voilà, pour marquer un peu cette rencontre interreligieuse et cette rencontre avec Al-Sistani. Donc déjà, on sent beaucoup de retours, de retombées positives depuis que le pape est arrivé.
Et à Our, vous étiez donc à Our, donc ce haut lieu des monothéismes. Il semblerait qu'il y avait une ferveur assez forte, même très forte.
Oui, là aussi, déjà pendant la rencontre, bon, c'était très très poignant avec des témoignages de fidèles, de croyants, mandéens ou yézidis qui racontaient leur expérience de la fraternité, des témoignages où un yézidi tendait la main à un musulman ou vice-versa. Mais c'est surtout à la fin de la rencontre, quand tout s'est terminé, le pape s'est levé, tous les chefs spirituels se sont levés et se sont amassés autour de lui, chacun voulait lui dire un petit mot, prendre une photo, enfin c'était assez impressionnant.
Que retiendrez-vous de la rencontre du pape avec le grand ayatollah Ali Sistani ? C'était une rencontre privée, bien sûr, donc il n'en est pas ressorti vraiment beaucoup d'informations. Mais voilà, qu'est-ce que le Vatican déjà a dit, le Saint-Siège a dit sur cette rencontre historique ?
Oui, en effet, c'était strictement privé, donc on n'a pas le contenu exact, mais déjà le communiqué nous éclaire un petit peu lorsque on apprend que le pape François l'a remercié pour avoir contribué à l'unité de l'Irak ou bien à sa défense de la vie et des plus faibles. Donc c'est un principe qui est extrêmement cher au pape François et on décèle du coup des axes communs peut-être pour un dialogue interreligieux un peu plus intense à l'avenir. Et je tiendrai à souligner aussi que cette arrivée du pape François dans les ruelles jusqu'à cette résidence extrêmement modeste, on sentait aussi que les deux hommes partageaient une certaine modestie, une certaine simplicité.
Une certaine vision commune de la sobriété. Je vous remercie Arthur Herlin. Donc je rappelle que vous allez suivre ce voyage jusqu'à son terme. Vous serez ce dimanche à Mossoul.
Oui, je serai à Mossoul.
En hélicoptère, donc vous vous rendez en hélicoptère.
Nous suivrons le pape François en hélicoptère, exactement, pour arriver au centre-ville et participer à une rencontre avec des victimes de la guerre et une prière pour tous ceux qui sont disparus.
Un moment, en effet, très attendu. Je vous remercie. Bonne suite de mission et de voyage. Merci, Arthur.
Merci, Geneviève.
Christian Lochon, vous avez... Écoutez hein, les propos du pape donc sur la paix. Il y a eu d'autres propos du pape, notamment à son arrivée, où le pape a parlé de la corruption qui, effectivement, on le sait, gangrène la société irakienne.
Vous avez remarqué que le souverain pontife a utilisé les termes extraordinaires que les événements, même terribles, qui ont eu lieu, ont été faits entre frères et sœurs. Et ces frères et sœurs vont à nouveau se retrouver. Nous sommes, disait-il, sur le chemin de la paix. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que le pape, il sait certainement, on lui a dit qu'en arabe, quand on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans la rue, on lui dit « mon frère », ou à une dame, on lui dit « ma sœur ». Ça, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup frappé, car les Irakiens sont, comme la plupart des Arabes, très sensibles aux relations familiales et aux relations fraternelles. Le deuxième point que vous venez de dire, effectivement, c'est la corruption. La corruption, c'est un chiffre énorme. Elle a été calculée 300 milliards de dollars depuis 2003. Qui sont partis dans la poche des différents responsables politiques ou autres.
2003, c'est-à-dire la chute de Saddam Hussein.
Chute de Saddam Hussein, donc avec un nouveau gouvernement qui sera, l'on peut dire, chiitisé, puisque avec Saddam Hussein, les chiites n'avaient pas du tout voix au chapitre.
Ce qui était le problème, parce qu'ils ont quand même plus de 60% dans le pays.
Alors, ils sont effectivement 63%. Ils ont toujours été majoritaires. Mais vous savez, Geneviève, que en ce qui concerne l'Irak, même au temps de la monarchie, les chiites n'ont jamais été, au temps de la monarchie, sous le Baas, puis sous Saddam Hussein, les chiites ont toujours été mis de côté. Ils ont été toujours sacrifiés. Il n'y a pas eu d'homme politique. Et là, c'est une sorte de revanche et qui est ressentie d'ailleurs par les sunnites qui avaient l'habitude de gouverner le pays.
Et c'est pour ça qu'on a retrouvé effectivement un certain nombre de militaires, j'allais dire, de fonctionnaires hein, de Saddam Hussein dans Daesh.
Bien sûr, c'était un moyen de se révolter puisque... Mais ça aussi, vous le savez très bien que ça a été la faute des Américains qui ont supprimé donc, le parti Baas, donc tous les cadres, mais supprimé l'armée. Et sans armée, on est entré dans une situation impossible entre 2003 jusqu'à 2013, pratiquement.
Oui, totalement chaotique. Alors, cette rencontre du pape François avec le grand ayatollah al-Sistani, elle est historique. On le dit souvent historique, mais là, c'est vraiment vrai. C'est totalement historique.
Absolument. C'est-à-dire... Elle est historique, mais il y avait eu des précédents dans l'autre sens. Il y a à peu près 2 ou 3 ans, des religieux chiites de l'obédience, on dit marjaïa, de l'obédience du grand ayatollah Ali Sistani ont été reçus au Vatican. Nous-mêmes, nous étions une délégation en 2017, nous avons été reçus à Najaf, précisément par des fidèles du grand ayatollah Ali Sistani qui nous ont assuré leur amitié, leur intérêt pour leurs concitoyens chrétiens. Donc je crois que c'est très important. Maintenant, quand c'est dit à ce niveau, quand même le grand ayatollah Sistani fait partie des 4 grands ayatollahs, c'est-à-dire le chiisme international est dirigé par 4 grands ayatollahs. 3 sont iraniens, Ali Sistani est irakien. C'est extrêmement important parce que, et ça, le Vatican le sait, Ali Sistani soutient une théorie qui s'oppose à celle de Khomeini. C'est-à-dire, c'est une théorie qui a été fondée il n'y a pas très longtemps, au XVIIIe siècle, qui s'appelle Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire suprématie du clerc sur le gouvernant, ou suprématie du clerc sur le laïc.
Oui, ça s'appelle une théocratie, quoi.
C'est une théocratie. Et le Ali Sistani, qui est un nationaliste, qui est beaucoup plus irakien, c'est quelque chose qu'il n'admet pas. Ce qu'il n'admet pas, c'est que la religion puisse décider de l'État. Et ça, c'est tout à fait en opposition. Alors, vous remarquerez, Geneviève, que c'est en opposition non seulement avec le régime iranien, mais aussi avec le Hezbollah du Liban, c'est-à-dire qui, eux, ont adopté la théorie de cette suprématie du clair. Déjà, les intellectuels chiites avaient montré qu'ils étaient proches des chrétiens. Je pense à cet universitaire qui certainement sera reçu par le pape, c'est Saad Salloum. Il est coprésident du Conseil supérieur interculturel et interreligieux. Il a écrit un ouvrage « Les chrétiens d'Irak » en 2013, où il dit notamment « L'Irak est un arbre musulman, mais les racines sont chrétiennes. Peut-on séparer un arbre de ses racines ?» Je crois que ça explique tout à fait. Il est dans la lignée orthodoxe du grand ayatollah Ali Sistani. Les chiites désirent un rapprochement avec les chrétiens et ils voudraient être fidèles à la proposition du pape qui les a appelés frères et sœurs et qui a montré qu'il était venu en Irak pour saluer l'ensemble des communautés qui ont naturellement toutes souffert.
Oui, c'est ça. Le pape, bien sûr, vient réconforter des chrétiens qui ont souffert, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens en Irak, c'est quoi ? 350 000 au plus ?
Oui.
C'était 1,5 million en 2003.
Vous avez tout à fait raison.
Donc c'est considérable, la saignée est considérable. Ouais. Donc aujourd'hui, il s'agit de les réconforter, de les rassurer, mais aussi, bien sûr, de parler à l'ensemble de l'Irak. C'est exactement ce que le pape fait.
La religion, de par sa nature même, doit être au service de la paix et de la fraternité. Le nom de Dieu ne peut être utilisé pour justifier des actes de meurtre, d'exil, de terrorisme et d'oppression.
Oui, toujours le pape François, donc, pour rappeler qu'effectivement, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. Ce dimanche, trois nouvelles étapes. Erbil, au nord, la capitale donc du Kurdistan irakien, qui est une région semi-autonome de l'État fédéral d'Irak. Mossoul, la ville martyre, siège entre 2014 et 2017 du califat autoproclamé de Daesh. Donc Mossoul qui fut libéré en juillet 2017 après d'âpres combats dans la vieille ville où on se concentrait le patrimoine religieux. Et puis troisième étape, Karakoch, donc la ville chrétienne de la plaine de Ninive, que les habitants avaient dû quitter en pleine nuit pour trouver refuge au Kurdistan irakien. On va écouter Laurence Desjoyeaux, grand reporter à l'hebdomadaire La Vie, de retour précisément de Mossoul. Et elle nous raconte en quoi les pierres, finalement, aujourd'hui parlent.
Les ruines qu'on peut voir à Mossoul et surtout dans la vieille ville, puisque c'est là que se sont concentrés les combats contre Daesh, racontent voilà ce qui a été l'occupation de cette ville et puis la volonté d'en détruire l'histoire, et notamment l'histoire qui était une histoire diverse avec des communautés très différentes qui y cohabitaient. Vraiment, les ruines racontent la destruction que Daesh a menée dans cette ville, même si, bien sûr, les ruines sont liées surtout au combat pour libérer la ville, en l'occurrence. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, l'histoire, en fait, de Daesh en Irak commence presque avant de 2014, parce que à Mossoul il y avait Daesh avant Daesh, si on peut dire. Il y a eu, en fait, depuis 2003, c'est un peu une 2003-2014 et l'arrivée de Daesh, c'est un peu une décennie noire pour cette ville, avec petit à petit l'implantation d'Al-Qaïda. Et même dans les années 2011, 12, 13, il y avait des quartiers entiers de la ville qui étaient déjà aux mains d'Al-Qaïda. Donc voilà. L'histoire un peu terrible de la ville, elle remonte bien avant 2014.
Est-ce que l'on peut dire que le patrimoine chrétien, en l'occurrence, a disparu de Mossoul, Laurence Desjoyeaux ?
Alors en fait, le patrimoine chrétien, il a été touché parce qu'il était concentré dans cette vieille ville de Mossoul, où ont eu lieu vraiment les combats très durs pour reprendre la ville. Parce qu'en fait, cette vieille ville était le dernier carré des djihadistes à Mossoul, et il a été assez difficile de les y déloger. Donc il y a eu beaucoup de destruction dans cette vieille ville, et donc le patrimoine chrétien qui était concentré dans cette ville, il y a notamment une place où il y a autour 5 églises. Donc voilà, ce patrimoine a été détruit parce qu'il était situé là. Et puis, il n'y a pas que le patrimoine chrétien qui a été détruit, puisque juste à côté, par exemple, de l'église Notre-Dame de l'Heure, emblématique par sa fameuse horloge offerte par l'impératrice Eugénie, il y a plein d'autres églises, mais il y a aussi la mosquée Al-Nouri, là où Al-Baghdadi a déclaré le califat en juin 2014. Donc cette mosquée, elle a été détruite, et notamment le fameux minaret, la tour penchée, a été lui aussi rasée. C'est Daesh qui a fait sauter le minaret. Donc voilà, les destructions ont concerné vraiment tout ce quartier. En fait, les églises, elles ont souvent été utilisées par Daesh comme des tribunaux juridiques et des prisons. Donc là où allaient les gens qui avaient fumé une cigarette, qui avaient pas la barbe assez longue. Enfin voilà, moi j'ai eu des témoignages de gens qui avaient passé 15 jours dans l'église en prison parce que la barbe était pas assez longue ou des choses comme ça. Et puis ça pouvait être des centres d'entraînement ou des centres d'endoctrinement, notamment pour les enfants. Parce qu'en fait, Daesh considérait que les églises seraient pas bombardées par la coalition, et donc se disait que c'était peut-être plus
le
sûr
bon
de voilà le bon endroit pour s'installer. Donc ça ajoute aussi un peu à la souffrance des chrétiens et vis-à-vis de ce patrimoine de savoir que ça a servi justement pour vraiment faire le mal, quoi.
Des grandes figures ont disparu pendant cette période. Là, je pense au père Rao, c'est cela, Monseigneur Rao,
oui,
qui a été enlevé et qu'on n'a jamais retrouvé.
Voilà, en fait, dans cette décennie 2003, post-Saddam Hussein jusqu'à 2014, il y a eu des années avec des pics d'enlèvements et d'assassinats de chrétiens. Il y a un chiffre qui me semble est assez parlant. Donc, en 2005, c'est l'enlèvement de Monseigneur Georges Kasmoussa, donc l'évêque syriaque catholique, et en 2008, c'est l'enlèvement et la mort de Monseigneur Faraj Raoult, donc l'évêque chaldéen de la ville. Et entre ces deux dates, il y a 20 prêtres qui ont été enlevés. Donc il faut vous imaginer, quand vous êtes la communauté chrétienne de la ville et qu'il y a 20 prêtres qui sont enlevés, rançonnés et tout. Moi, il y a un prêtre que je connais bien, lui, il a été enlevé pendant 9 jours, là, avec une rançon. Et voilà, donc ça, c'est 20 prêtres. Mais dans le même temps, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été enlevés pour être rançonnés. Voilà, et surtout, beaucoup de menaces, enfin des menaces, c'était terrible. On leur distribuait dans les boîtes aux lettres des DVD avec des vidéos d'exécution. Ça voulait dire partez, quoi. Parfois, vous receviez un mot dans votre boîte aux lettres, c'était partez dans les 24 heures, sinon on vous tue. Donc ça a été, dès cette époque-là, les chrétiens ont commencé à partir. Il y a vraiment eu un départ tout au long de cette décennie-là et jusqu'à 2014, où là, le départ a été forcé et total.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne reste plus que quoi ? Quelques centaines de familles ou une centaine de personnes vivant à Mossoul, de familles chrétiennes ?
Voilà, en fait, donc ces familles-là, c'est des familles qui étaient parties et qui sont revenues. Parce qu'en 2014, tous les chrétiens sont partis, à quelques rares exceptions près, des personnes très âgées ou des personnes handicapées, mais vraiment des très rares exceptions qui doivent se compter sur les doigts des deux mains. Tout le monde est parti parce qu'il y a eu un ultimatum disant aux chrétiens, si vous n'êtes pas parti avant samedi midi, voilà, c'était le 18 juillet, si vous n'êtes pas parti avant demain midi, soit vous devrez payer la taxe, soit vous devez vous convertir, soit, c'était écrit, entre vous et nous, il n'y aura plus que l'épée. Donc là, tous les derniers chrétiens sont partis. Donc aujourd'hui, que reste-t-il comme chrétien à Mossoul ? Il reste environ 70 familles. Donc ce sont des familles qui sont revenues s'y installer, sachant qu'ils comptent en famille en Irak, mais parmi ces familles, il y a des familles où il y a une seule personne. Par exemple, le père de famille qui est revenu pour travailler, ou alors une veuve ou une personne célibataire qui n'avait pas d'autre vie ailleurs et qui finalement s'est dit que revenir dans sa ville d'origine où elle avait ses amis, c'était peut-être la meilleure solution. Mais donc, ça fait 70 familles, donc peut-être entre 100 et 200 personnes, dans une ville qui comptait, les estimations, c'est avant 2003, environ 50 000 chrétiens. Donc ils étaient déjà pas très nombreux à l'échelle de la ville, mais là c'est vraiment un tout petit reste. Donc,
ils reviennent pourquoi ?
Alors les raisons sont variées. D'abord parce que vraiment les Mossouliotes sont des purs Mossouliotes et ils sont fiers de leur ville. C'est une identité propre, être Mossouliote, qui transcende vraiment les appartenances religieuses. Ensuite, il y a des motifs économiques. Voilà, quelqu'un qui n'a pas réussi à se réimplanter ailleurs, notamment au Kurdistan irakien, par exemple, où beaucoup de chrétiens de Mossoul se sont réinstallés. Ben, il y en a qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas voilà, les compétences,
pas place,
voilà, qui n'ont pas trouvé leur place et qui ont survécu grâce aux aides de l'Église, etc. Et qui, à Mossoul, ont pu retrouver leur maison.
Souvent spoliés, mais bon,
voilà, retrouver leur maison. Voilà, mais se réinstaller et puis retrouver un travail. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi... que ceux que j'ai rencontrés qui sont rentrés ont été extrêmement bien accueillis par leurs voisins musulmans. Ils ont retrouvé en fait cette vie de quartier qu'ils connaissaient avant et ils ont été très bien accueillis. Et puis il y a des gens qui reviennent dans une forme de témoignage qui disent voilà, nous notre vie elle était ici, on a notre place ici, on a quelque chose aussi à dire aux autres. C'est ici qu'on revient même si c'est plus dur de revenir ici que de rester ailleurs.
C'est une ville très conservatrice, hein, vous l'avez souligné, une ville sunnite très conservatrice. Il y a, dans votre reportage, on le lit quand même, cette peur de ces chrétiens se disant, voilà, il y a quand même eu des dénonciations. Il y a des musulmans qui n'ont pas été dans le sens hein, de la protection. Ils sont minoritaires, mais ils ont existé. Est-ce que cette peur, aujourd'hui, existe chez les chrétiens ou en tous les cas, cette méfiance. Et comment rétablir un climat de confiance?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Donc, chez ceux qui sont rentrés, il y a vraiment la joie de voir que le voisinage et les voisins musulmans sont vraiment très accueillants. Et c'est des histoires touchantes. Hein. J'ai donc un homme qui revient et qui déménage, il me dit « mais moi, j'ai pas porté un meuble, tous les voisins m'ont aidé, ils m'ont fait à manger pendant 3 jours ». Une femme seule qui revient dans son ancien quartier, le temps que les travaux dans la maison soient faits, elle est accueillie dans une famille d'amis musulmans pendant 1 mois et demi. Donc vraiment, les liens de voisinage, je pense, ont vraiment survécu à Daesh. Après, il y a aussi des gens qui ne sont pas revenus et qui me disent, voilà, dans mon quartier, je sais qu'il y en a un qui a collaboré avec Daesh, je sais qu'il a peut-être pillé ma maison, et je sais qu'il est toujours là, et pour moi, c'est vraiment presque impossible de rentrer. Ou pareil, des gens qui disent, voilà, dans mon travail, je sais qu'il y en a un, deux, qui ont été des Daesh, et du coup, c'est presque impossible d'y retourner. Au-delà de la question du voisinage et des connaissances immédiates, il y a l'ambiance générale de la ville. Donc cet homme qui témoignait des très bonnes relations avec ses voisins, il disait « on est comme des frères », il me disait « mais je sais aussi que dans la ville, lui, il estimait que peut-être 60% des musulmans pensaient que lui était un koufar, un infidèle ». Donc il y a aussi cette dualité.
Oui.
En fait, Mossoul, avant Daesh, c'était déjà une ville assez repliée sur elle-même et assez conservatrice. Et l'idéologie de Daesh qui a été inculquée presque comme un lavage de cerveau, forcément, ça disparaît pas tout de suite. Après, à Mossoul, il y a aussi toute une nouvelle génération qu'on retrouve notamment autour de l'université, des jeunes qui, voilà, n'en peuvent plus, quoi, ont vécu cet enfer. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'était vivre à Mossoul pendant ces 3 années-là. D'autant plus pour des jeunes, enfin, c'était une prison à ciel ouvert et une prison vraiment dure. Donc, beaucoup ont été vaccinés, beaucoup veulent aussi autre chose. Et il y a une génération de jeunes là qui arrivent, qui sont ouverts, qui questionnent aussi un peu les normes et surtout qui entreprennent, qui étudient. Et puis le dernier aspect sur la question du patrimoine, c'est que le patrimoine religieux chrétien pour les Mossouliotes faisait vraiment partie de l'esprit de la ville. Et dans ce vieux quartier de Mossoul, les gens vivaient aussi avec le son de la cloche. Et pour eux, ça faisait vraiment partie de l'identité de la ville, et ça, ils ont envie que ça revienne. Donc moi, dans cette vieille ville, j'ai rencontré des musulmans, forcément, dans les rues, qui disaient « mais nous, on veut que les chrétiens reviennent, on veut en fait notre vie d'avant, quoi, aussi ». Et les chrétiens, ils faisaient partie de cette vie d'avant. Donc il y a cette dualité, voilà, entre une envie que les chrétiens reviennent, qui est assez partagée, une ville qui reste conservatrice, sunnite, où il y a des restes de l'idéologie de Daesh. Donc voilà, les choses ne sont pas noires ou blanches.
La visite du pape, c'est effectivement un appel à ce que les cloches et le médecine puissent effectivement fonctionner ensemble, si je peux dire.
Oui, je pense que... Donc, à Mossoul, le pape, il prie pour la paix. C'est une prière. Et je pense que ça peut toucher vraiment tout le monde, parce que tout le monde a été éprouvé par ces années Daesh. Vraiment, c'est... quand on se déplace dans cette ville, c'est évident que ça a été une horreur pour tout le monde. Et il y a un appel très fort, à mon avis, à ce que les liens de confiance puissent se retisser. Et pas par des grandes phrases, pas voilà, mais par un dialogue de vie et le dialogue de voisinage. Et d'ailleurs, on le voit, les gens qui sont revenus, C'est dans le lien avec le voisinage, dans les choses très concrètes, aider à déménager, des échanges économiques. C'est là-dedans, en fait, que se renoue le dialogue de vie et que se renoue la confiance. Ça se décrète pas, c'est pas forcément évident, surtout vu les béances et les blessures qu'a engendré Daesh, qui a tout fait pour séparer les gens, pour les diviser, pour les monter les uns contre les autres. Mais je pense que ça venu juste à côté de là où Baghdadi a déclaré le califat à la mosquée Al-Nouri, et de là où il a dit qu'il allait envahir Rome, etc. La venue du Saint-Père là, en elle-même, est un signe que rien n'est inéluctable et que la paix est vraiment possible.
Merci Laurence Desjoyeaux. Je rappelle donc ce reportage, votre reportage dans la vie, avec ce beau titre, hein, Un voyage pour l'histoire. Merci.
Merci Geneviève.
Christian Lechon, vous avez donc vécu en Irak, hein, je le rappelais. Mossoul, effectivement, cette ville carrefour, cette ville martyr, cette ville aujourd'hui en reconstruction où il faut retisser des liens.
Oui. J'ai vécu à Mossoul il y a très très longtemps. En 1957, j'ai appris l'arabe et j'ai enseigné au séminaire syro-chaldéen des pères dominicains. Et Mossoul, pourquoi les pères dominicains étaient installés à Mossoul? Parce que il faut rappeler quand même au début du 19e siècle, 20% de la population était chrétienne. Le quartier central était chrétien. Les pères Carmes se sont installés au début du 17e siècle, et puis ensuite les dominicains italiens au 18e, et puis les dominicains français au 19e. C'était très curieux dans la fin de ces années 60, c'est que tout le monde était habillé de façon différente. En kurde, en yézidi, en chrétien, les dames chrétiennes portaient des vêtements qui étaient reconnaissables selon leur village, selon qu'elles étaient syriaques ou qu'elles étaient chaldéennes, etc. Ce n'est pas parce qu'il y avait cette diversité de costumes qu'il n'y avait pas une sympathie des communautés les unes pour les autres. Je me rappelle très bien que au moment de Noël, par exemple, les voisins musulmans se rendaient pour fêter. Pour l'Aïd, ce sont les voisins chrétiens qui venaient fêter les musulmans. Il y avait donc une vie, malgré la diversité des costumes. Puis, il n'y a plus eu de costumes différenciés, mais malheureusement, ça a été un complet échec.
C'est un sunnisme conservateur à Mossoul.
Mossoul est un sunnisme conservateur. Alors, le pape, le souverain pontife, était seulement dans la partie chiite, que ce soit Bagdad, par exemple. Bagdad avait 50% de la population qui était sunnite en 1900. Il n'y a plus que 20%. C'est-à-dire que...
Donc, la cartographie a changé, voilà. Ça a changé complètement.
C'est-à-dire que Bagdad a été chiitisé, et puis là où il était, naturellement, Najaf, Our, ce sont des villes et des lieux chiites.
Mais Mossoul
maintenant,
est sunnite.
Il va à Mossoul.
Oui.
Et il va à Mossoul, il va rencontrer des sunnites. Alors, il va rencontrer des sunnites arabes à Mossoul et des sunnites kurdes à Erbil. Tout a été, voyez-vous, c'est extrêmement curieux quand on voit les étapes par lesquels le souverain pontife est passé, on se rend compte que rien n'a été négligé. C'est-à-dire, on va à Mossoul, mais on va à Mossoul, on sera entouré de responsables et de cadres musulmans, mais on ira dans le quartier chrétien comme souvenir de ce qui s'est passé. Souvenir de ce qui s'est passé, et puis Laurence l'a rappelé tout à l'heure, la fameuse mosquée Nouri. Sur les billets de banque irakiens, il y avait toujours le minaret de la mosquée Nouri. D'autre part, qu'est-ce qu'ont fait les Daéchis en arrivant à Mossoul? Ils n'ont pas détruit, pour la raison que Laurence a expliquée, ils n'ont pas détruit les églises, parce qu'ils les utilisaient comme lieu de confinement ou de tribunal, etc. Mais ils ont détruit plusieurs mosquées. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que
ça paraît fou, effectivement.
Mais c'est la question du patrimoine. qui sera certainement soulevée, c'est-à-dire notamment cette extraordinaire mosquée qui rappelait l'Antiquité et puis la Bible, et puis qui était bâtie sur une ancienne église, qui était bâtie sur un temple assyrien. Les Daïchis ont détruit tout ça.
Oui, cette volonté effectivement de raser le passé, sans oublier les milliers de manuscrits chrétiens qui ont été détruits. La ville de Mossoul est actuellement en pleine reconstruction, en chantier, hein, notamment son patrimoine religieux, musulman et chrétien. Et je vous propose à ce sujet d'écouter au micro d'Isabelle Chenu le frère dominicain Olivier Poquillon, qui est un frère français, qui supervise la reconstruction du couvent Notre-Dame de l'Eure qu'évoquait il y a quelques instants Laurence Desjoyeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette reconstruction qui entre dans le programme de l'UNESCO Retrouver l'esprit de Mossoul est financée par les Émirats Arabes Unis, et c'est une décision qui a été prise après la venue du pape François à Abu Dhabi, donc en 2019.
Donc les Émirats Arabes Unis s'étaient engagés à reconstruire la grande mosquée Al-Nouri, donc qui est la mosquée emblématique de cette ville, la grande ville sunnite du Nord, et a choisi, après la visite du pape François, de reconstruire deux églises chrétiennes, l'ancienne cathédrale Al-Tahira, donc des Syriaques catholiques, et le couvent des Dominicains.
Reconstruire ces églises, c'est vraiment un espoir pour les chrétiens d'Irak. Sans reconstruction d'églises, c'est terminé.
En fait, ceux qui sont les plus demandeurs de la reconstruction de l'église, ce sont nos frères musulmans. Quand je suis à la grande mosquée, le responsable de la grande mosquée Al-Nouri me demande « Alors, quand vas-tu restaurer ton clocher ?» Il me dit « Moi, je veux entendre les cloches sonner tous les quarts d'heure. » Comme quand j'étais enfant, c'était notre fierté. On était le seul quartier de la ville et la seule ville à avoir cette horloge depuis des siècles. Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, l'église, donc le couvent et la mission qui est autour, a scolarisé beaucoup de sunnites, y compris des musulmans. Donc, on a un certain nombre de personnes maintenant qui ont un certain âge quand même, mais qui sont allées à l'école chez les chrétiens. Et les plus jeunes, notamment les lycéens, disent « Mais voilà, il faut que vous reveniez parce que la présence de chrétiens, la présence des membres des petites communautés d'Irak, eh bien, correspond pour eux, dans leur imaginaire, à la période de prospérité de leur ville. Ils veulent retrouver cet esprit de Mossoul qui a toujours été un peu comme une mosaïque. Vous savez, une mosaïque où on a des couleurs dominantes, mais on a besoin aussi de petites tesselles avec des couleurs particulières pour donner l'image complète. Voilà, aujourd'hui, c'est ça que nous essayons de faire. Alors pour les chrétiens, on ne sait pas si ça va faire revenir les chrétiens, mais ce dont on est sûr, c'est que si on ne fait rien, les chrétiens ne vont pas revenir. Aujourd'hui, le projet avec l'UNESCO, faire revenir l'esprit de Mossoul, ça consiste à reconstruire des bâtiments, mais d'abord pour reconstruire la confiance. C'est ce que nous faisons. Nous avons des travailleurs donc qui sont gardiens, qui sont des mineurs, qui sont ouvriers ou architectes, qui appartiennent à toutes les communautés. Et ça, c'est assez unique d'avoir des occasions comme ça, de vivre, de travailler, d'avoir un projet commun entre gens appartenant à différentes communautés. Et sur ce type de projet de reconstruction.
Je ne peux pas oublier les Yazidis, victimes innocentes de barbaries insensées et inhumaines, persécutées en raison de leur appartenance religieuse, dont l'identité même et la survie ont été menacées.
À son arrivée en Irak, le pape François n'a pas manqué de rappeler les actes de barbarie de Daesh à l'encontre de la minorité yézidi ce mois d'août 2014. Contrairement aux chrétiens de Karakoch, dans la plaine de Ninive, qui avaient pu s'enfuir en direction d'Erbil, les yézidis vont être les victimes d'un génocide. Hommes abattus, jetés dans des fosses communes, femmes et jeunes filles enlevées, violées, vendues, revendues comme esclaves sexuels et domestiques, enfants endoctrinés pour devenir les lionceaux du califat. Dans cette nuit de l'humanité, une lumière, les réseaux de passeurs qui vont se constituer pour sortir de l'enfer, ces esclaves de Daesh. C'est ce que raconte le livre du père Patrick Desbois, Les larmes du passeur,
publié aux éditions du Rocher. Depuis 2015, le père Patrick Desbois, vice-président de la fondation Yad in Unum, documente ce crime de masse en recueillant des témoignages. Et avec l'ONG Action Yézidi, il accompagne la reconstruction des déplacés yézidis dont une partie vit encore dans des camps. Avant d'écouter son témoignage sur le sauvetage des yézidis, quelques précisions sur cette minorité religieuse qui remonte à la Perse antique.
Oui, les yézidis ont cohabité depuis toujours, j'allais dire, avec les juifs, avec les chrétiens, avec les musulmans dans cette région du Sinjar. Et ce sont des peuples, je dirais, très agriculteurs, avec des élevages d'animaux et qui pratiquent une religion qui vénère la lumière. On peut les classer comme une religion proche des zoroastriens. Ce sont surtout des peuples très, très paisibles et qui ont toujours souffert, je dirais, des voisins.
C'est ça qui, depuis en fait le XIIIe siècle, semble-t-il, sont persécutés.
Oui, ils ont eu de nombreuses persécutions au cours de l'histoire par l'Empire ottoman, globalement par le fait aussi qu'ils refusent obstinément de se convertir à l'islam. Ils sont une religion fermée, on ne peut pas devenir yazidi, on est né yazidi.
Alors, on les appelle aussi les adorateurs du diable, pourquoi ? Enfin, en tous les cas, Daesh les appelait comme ça.
Pour plusieurs raisons, la première raison, c'est qu'ils n'ont pas de livre, c'est une religion orale. Et donc, ils ont tout de suite été classés comme des mécréants par Daesh et Baghdadi, leur chef, mais aussi parce qu'il se réfère souvent aux anges et cet ange est classé par les islamistes comme le diable lui-même. Cette accusation est récurrente, mais ce qui a justifié aux yeux des islamistes de Daesh le fait qu'ils puissent arracher les nouveau-nés, vendre les jeunes filles vierges, etc., c'est le fait qu'il n'ait pas de livre. Et donc, ils sont classés comme non-croyants, donc mécréants, ce qu'on appelle koufars.
Alors vous, père Patrick Desbois, donc dès 2015, vous allez vous intéresser, comme vous l'avez fait pour les Juifs d'Europe de l'Est, vous allez vous intéresser à ce génocide, parce que l'on peut parler véritablement d'un génocide.
Oui, lorsque j'ai vu ce qui se passait à la télévision, ces populations civiles qui grimpaient sur les montagnes pour échapper aux unités de Daesh qui brandissaient leur drapeau noir.
Par 40 degrés, faut le rappeler cet été, oui, par 40 degrés à ce moment-là.
Et j'ai décidé que l'on allait aller en Irak et nous avons commencé, tant bien que mal au début, à interviewer les filles et les garçons qui étaient relâchés ou plutôt revendus par Daesh depuis moins de 15 ans. Parce qu'il faut savoir que les Daesh les revendaient surtout lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Ils revendaient une fille 25 000 $ et un garçon 15 000 $.
Oui, alors tout dépendait effectivement de l'âge de la fille, si elle était pubère ou non. Il y avait une véritable classification.
Ah oui, malheureusement, lorsqu'ils arrêtent les yazidis, ils les enferment dans une administration et là, ils vont traiter chacun différemment. Les nouveau-nés vont être arrachés aux familles et donnés à des familles de Daesh. Et jusqu'à aujourd'hui, les familles recherchent leurs enfants. Les garçons de moins de 11 ans, on leur fait lever les bras. S'ils ont du poil sous les bras, ils seront fusillés avec les hommes. Et s'ils n'en ont pas, ils seront classés comme enfants. Ils vont être emmenés dans des camps de formation de terroristes après une école islamique. Et les jeunes filles, une médecin vient pour vérifier la virginité. Et celles qui sont vierges vont être vendues par groupe de 100-200. Et les femmes ayant des enfants vont être vendues aussi séparément. Et puis les femmes trop âgées, trop malades, comme les hommes, vont être fusillées.
On estime à combien le nombre de femmes et d'enfants kidnappés ?
On n'en sait rien en fait, parce que Daesh n'est pas mort, il y a encore minimum 300-400 yazidis qui sont dans les mains de Daesh. On n'en sait rien parce qu'il y a eu de nombreuses exécutions. Il y a beaucoup de filles aussi quand elles ont vu qu'elles seraient violées, vendues, revendues. Puisqu'une fille qui sort aujourd'hui de Daesh a été vendue entre 25 et 35 fois. Certaines filles, évidemment, ne le supportent pas et se suicident. Donc, il est vraiment très difficile, je dirais, d'avoir des chiffres. En plus, on n'a pas accès aux fosses communes qui sont en Syrie.
Alors, dans cette nuit, on peut dire, cette nuit de l'humanité, il y a effectivement cette lumière avec ces passeurs qui vont prendre des risques extrêmes pour exfiltrer, pour arracher ces filles à leur bourreau.
Oui, très vite, les yazidis ont compris qu'ils étaient seuls et qu'aucune armée viendrait les libérer, parce qu'en plus, ils étaient achetés par des familles ou par des hommes, donc ils pouvaient être mis n'importe où. Et donc, se sont levés des hommes et des femmes, passeurs, yazidis ou kurdes, qui avaient comme métier boulanger ou bien commerçant, qui avaient donc des réseaux, je dirais, dans la Syrie et dans l'Irak, et qui ont monté quasiment des réseaux secrets d'exfiltration des filles et des garçons. Le grand problème était de les localiser, parce que les Daesh enlevaient tous les téléphones à ceux qu'ils achetaient, de peur qu'ils communiquent avec leur famille. Et puis aussi, sous le règne de Daesh, il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de réseau. Et lorsqu'ils arrivaient à le localiser, il montait un rendez-vous, une voiture arrivait, la fille devait sortir, monter dans la voiture, se cacher parfois des semaines quelque part en attendant que Daesh arrête de la chercher et puis la faire passer, je dirais, de poste en poste, de cache en cache, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa famille. Et pour les familles, c'est évidemment un grand désarroi parce que souvent, il fallait qu'elles payent les passeurs ne sont pas bénévoles, et souvent, il fallait qu'elles choisissent lequel elles allaient libérer, et parfois, elles libéraient une fille parce qu'elles avaient de l'argent pour une fille et pas pour les autres enfants. Donc, imaginez le drame familial lorsque vous devez choisir quel enfant vous allez sauver.
Alors, ces réseaux de sauvetage, eh bien, ce sont les passeurs et puis aussi les intermédiaires.
Ils cherchaient à localiser telle fille qui avait réussi à envoyer un coup de fil à sa famille ou bien SMS. Et après, c'était une véritable opération d'enlèvement parce qu'un Daesh était fou furieux lorsque on lui enlevait son esclave sexuel. Et donc, il lançait une recherche tous azimuts. Parfois, les passeurs se sont fait tuer les uns après les autres. Ils essayaient aussi de corrompre les Daesh. Certains Daesh trahissaient les autres en revendant des esclaves. Donc, je dirais, ce ne sont pas des anges, les passeurs, mais ce sont des hommes qui ont choisi de servir la vie, sans doute pour beaucoup, pour se faire de l'argent, mais qui, je dirais, qui ont été très attachés à libérer ces victimes innocentes, car d'autres passeurs, que je ne nommerai pas, eux, finançaient des extractions des gens de Daesh, donc de l'autre côté.
Oui, effectivement, ça, on comprend beaucoup mieux hein, le titre de votre livre, « Père Patrick Desbois, les larmes du passeur », parce qu'il y a beaucoup de larmes à l'arrivée, larmes de ces filles qui sortent d'un enfer de 2 ans, 3 ans, larmes du passeur qui a à la fois vécu un stress terrible, hein, on lit d'ailleurs votre livre comme un thriller, et puis larmes d'émotion, bien sûr.
Oui, on n'a souvent pas écrit de livres sur les passeurs, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des personnages essentiels parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun yazidi vivant sorti des mains de Daesh sans un passeur qui a pris des risques difficiles. En plus, le passeur pouvait être localisé, y compris en Irak, et qu'on le fasse assassiner, y compris sa famille. Donc, ils ont vraiment pris des risques très forts. Et puis aussi, il fallait, je dirais, une grande intelligence parce que il fallait donner des codes, il fallait communiquer avec l'esclave, parfois négocier avec le Daesh, qui avait des exigences, qui pouvait mentir. Parfois, des Daesh ont fait des fausses libérations. Et lorsque les passeurs arrivaient, ils assassinaient les passeurs.
Il y a la question de l'argent, bien sûr, aussi. Comment, parce que c'était contre une rançon, évidemment. Donc, il fallait arriver à négocier cela aussi, pas mettre de l'argent sur un compte. Et puis, finalement, la jeune femme n'était pas libérée.
Oui, ça, c'est arrivé fréquemment. Les familles, j'ai ces exemples terribles. J'ai un papa, on était sur le mont Sinjar. Il a reçu un coup de fil de son fils, qui était donc sous Daesh, prisonnier, et qui lui a dit « Papa, il faut vite payer 15 000 dollars parce qu'ils vont m'envoyer comme kamikaze. » Et le papa n'a pas réussi à trouver la somme et son fils n'a plus jamais téléphoné. Donc, il a perdu son fils. Donc, les familles étaient dans… Vous savez, des fois, elles n'ont plus de nouvelles de leur fille ou de leur maman depuis 2 ans, 4 ans, 6 ans. Et tout d'un coup, elles reçoivent un coup de fil. « Maman est vivante, ma fille est vivante, il faut trouver de l'argent. » Donc, elles empruntent de l'argent de partout à des yazidis qui sont en Allemagne ou ailleurs. Et après, ils urgent le passeur de mettre en place le réseau de sauvetage qui est toujours, toujours risqué.
Il y a parmi ces survivantes, hein, il y a Nadia Mourad, prix Nobel de la paix.
Oui. Oui, Nadia Mourad, qui a été qui a été la lumière, je dirais, sur ce génocide, puisque grâce à elle, ça a été connu au niveau international. Elle a été violée par de nombreux hommes. Elle est restée 3 mois là-bas. Mais je dirais, il ne faut pas oublier toutes les femmes et les garçons inconnus aujourd'hui qui sont dans des camps. Il y a encore 18 camps de personnes déplacées yazidis, dont la plupart sont des gens qui essaient de se remettre. Vous savez, quand une maman sort et qu'elle a eu des enfants et des grossesses forcées, des enfants qui ne sont pas reconnus, qui sont Daesh, qu'elle doit abandonner si elle veut retrouver sa famille, parce que c'est la loi. Donc, je me souviens de cette dame que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Elle avait 5 enfants, 3 enfants de grossesse forcée de Daesh et 2 enfants yazidis qui étaient ses enfants. Et lorsqu'elle a voulu rentrer, on l'a obligée à abandonner ses 3 enfants des hommes de Daesh dans un orphelinat. Donc, et en arrivant, son mari l'avait divorcée et lui a repris les 2 enfants yazidis. Donc, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis yazidi, mais j'ai 0 enfant.
Elle a tout perdu. Elle a tout perdu.
Elle a tout perdu, sauf retrouver son identité première. Au début, elle voulait retourner en Syrie en disant « Je préfère être musulmane avec mes 3 enfants que toute seule ici. » pour le moment, nous l'avons employé dans nos centres. Je dirais, elle arrive à tenir bon.
Ce centre, donc, c'est un centre d'accompagnement et de reconstruction. Est-ce que l'on peut se reconstruire psychologiquement, réellement, après avoir connu, avoir été battu, violé par X hommes, revendu ? Est-ce qu'on peut se reconstruire ?
Les femmes, je dirais, ont une capacité surprenante de reconstruction. Ce qui est difficile pour elles, c'est qu'elles ont été 4-5 ans sous Daesh, sans nouvelles de leur famille, et elles croyaient qu'il n'y avait plus de Yazidis. Et donc, du coup, elles avaient dit, bah, c'est fini, je serai Daesh. J'ai été acheté, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, pour elles, c'est une véritable marche arrière à refaire, et y compris linguistique, parce qu'elles parlaient la langue de ceux qui les ont achetées. J'ai vu une fille achetée par des Allemands, elle parlait que l'allemand. Une fille achetée par des Russes, elle parlait que le russe.
Quand vous parlez par les Allemands, ça veut dire Daesh, des Daesh qui venaient d'Allemagne, c'est bien cela.
Voilà, des Daesh allemands, ou ouais. Des Daesh russes, ou du Kazakhstan. Aussi, oui. Ou bien des Daesh australiens ou des Daesh français. J'ai connu une fille qui a été achetée par un Français marocain de Toulouse. Et donc, il faut vraiment qu'elles se reconstruisent. Et je dirais, je suis surpris parce qu'on leur propose un métier avec des machines à coudre, avec des ateliers de reconstruction, qui est un psychologue. Et quand elles arrivent, elles ne font que des vêtements en noir et blanc. Et déjà, après un mois ou deux, elles remettent des couleurs et des fleurs sur leurs vêtements, ce qui pour moi est tout un symbole.
Oui, et avec des visages qui commencent à s'éliminer ou ce regard complètement vide que vous décrivez dans une bonne partie du livre, Père Patrick Desbois.
Il y a tous les cas. Il y a une maman dont on avait violé sa fille de 8 ans par 5 hommes et donc la fille était complètement perturbée, la maman aussi. Donc il y a des gens qui ont du mal à revenir parce que le trauma est épouvantable. Et quand même, je dirais que la majorité des femmes reprennent le goût de la vie et nous sommes heureux maintenant d'entendre des mariages puisqu'elles ont souvent été achetées lorsqu'elles étaient jeunes, donc elles n'étaient pas mariées et qui retrouvent quelqu'un à faire leur vie et engager un avenir. Nous sommes plutôt optimistes. Pour les garçons, c'est plus difficile parce qu'on leur a lavé la tête et on les a entraînés dans des camps et on les a emmenés comme enfants terroristes. Certains ont tué des gens. Donc il y a vraiment, je dirais, un sevrage de Daesh et aussi un accompagnement psychologique, physique. La famille n'est pas musulmane en plus, donc est très choquée que son fils soit non seulement musulman, mais ayant été terroriste.
Dernière question, Père Patrick Desbois. Est-ce que vous pensez que la visite du pape peut précisément... j'allais dire, dans cette optique hein, de réconciliation, peut améliorer la place des yézidis qui, quand même, bien avant Daesh, hein, bien avant 2014, étaient quand même considérés comme à part.
Oui, la visite du pape est quand même un événement majeur. D'abord, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un pape vient en Irak. Et je dirais, l'Irak est dans un chaos terrible. Donc, le fait qu'il vienne, qu'il ose venir malgré les roquettes qui se lance ici à droite et à gauche, est un immense signe d'espoir. Il n'y a pas eu, à mon avis, de visite historique de personnes de ce niveau moral au niveau mondial en Irak depuis longtemps. Pour les gens, n'oubliez pas que c'est un peuple croyant. Le pape n'est pas vu comme un chef d'État, il est vu comme un chef religieux mondial. Pour l'Irak, pour les Yazidis, pour tout le monde, c'est une très bonne nouvelle.
Je vous remercie, Père Patrick Desbois. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les larmes du passeur, au cœur des missions pour sauver les esclaves yazidis. Et c'est édité aux éditions du Rocher. Ainsi se referme Religion du Monde consacrée à l'Irak à l'occasion du voyage du pape François qui est attendu à Erbil où il doit célébrer dans l'après-midi une grand-messe avant de regagner Rome demain. Merci à vous Christian Lechon pour votre éclairage. Merci. Merci à nos invités pour leur témoignage. Cette émission a été préparée avec la collaboration de Véronique Durand et la réalisation est signée Thibaut Baduel. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous.